guérir des paroles qui tuent. Vous savez, je me plais beaucoup ces temps-ci à écouter les séries éliminatoires de la Coupe Stanley quand j'ai un moment en fin de soirée. C'est vraiment du hockey de meilleure qualité que durant la saison régulière parce que c'est la compétition, c'est la vie et la mort. Et il y a de très, très belles choses pour ceux qui aiment le hockey. C'est sûr qu'on aimerait que les Canadiens soient de la partie, les Canadiens de Montréal, mais ça, je crois que c'est un espoir pour une année future. Peut-être l'année prochaine, on va voir. Et une chose que j'ai remarquée, c'est que dans les émissions des reportages sur le hockey en direct, eh bien, les commentateurs aiment bien spotter, comme on dit, ils aiment bien identifier les familles de certains joueurs qui viennent regarder le match dans l'aréna et ils vont aller les interviewer à l'écran. Et ce qui me frappe, c'est que ces jeunes-là, souvent, viennent de familles qui ne sont pas riches, mais où les parents ont vraiment cru dans le potentiel de leur enfant. On ressent beaucoup l'amour inconditionnel du maman, de la maman, du papa, dans les interviews. Ils sont tellement fiers de leur fils qui joue dans les éliminatoires. Et il y a là un principe de la vie, un principe important de la vie de parent. Crois en ton enfant, bénis ton enfant par tes paroles de confiance, puis tu vas l'aider à réussir sa vie. Tu vas jouer un rôle clé, même pour qu'il atteigne son plein potentiel. Et c'est une parole encourageante et on peut travailler là-dessus. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Il y a peu de malheur aussi dévastateur pour un enfant que de recevoir d'un parent une parole qui tue. Une parole comme « Toi, tu ne vas jamais réussir dans la vie. » Pourquoi tu n'es pas davantage comme ton frère? À ton âge, j'étais beaucoup plus performant ou intelligent que toi. Ou même, j'aurais jamais dû t'avoir. Ça existe. Et à travers notre texte de ce matin, nous allons voir que les humains sont malheureusement très créatifs dans les coups de méchanceté, dans le mal qu'ils peuvent se faire les uns envers les autres, et ça commence souvent dans la famille. On pourrait dire que c'est prévisible parce que on a vu qu'il y a eu une rupture entre l'homme et Dieu, et la rupture entre les hommes est rentrée, puis ça a créé une spirale. On a vu ça tout le long des premiers chapitres de Genèse, la spirale du mal et le péché qui s'enracine dans la nature humaine créée bonne au départ. On pourrait dire que c'est presque prévisible, presque inévitable, et en même temps, il ne faut pas le justifier. Surtout, il y a une bonne nouvelle, et on va vraiment en venir là aussi. Il est possible de guérir des paroles qui tuent. Il y a toujours un espoir si tu as été coupable ou si tu as été victime d'avoir fait le mal, d'avoir dit le mal. Il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ, et surtout en Jésus-Christ. On va le voir plus tard. Mais d'abord, on pourrait peut-être relire le texte. C'est vrai qu'il a été très bien lu. Je vais quand même le relire. Seigneur, ouvre nos oreilles pour comprendre le texte, pour qu'il pénètre bien et que tu touches nos vies, notre manière d'approcher notre vie par ce texte. Amen. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Voilà quels sont les trois fils de Noé. Ce sont eux qui ont peuplé toute la terre. Et Noé commença à cultiver le sol et il planta de la vigne. Il but du vin et devint ivre, si bien qu'il se dénuda au milieu de sa tente. Il s'est déshabillé, s'est couché dans sa tente. Et Cham, son fils, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il en parla à ses deux frères qui se trouvaient à l'extérieur. Alors Sem et Japhet prirent un manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme ils détournaient la tête, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsqu'il eut fini de couver son vin, Noé apprit ce qu'avait fait son fils cadet et dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son esclave, que Dieu élargisse le territoire de Japhet, qu'il habite les tentes de Sem, et que Canaan soit son esclave. » Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans, puis il mourut. Amen. C'est en fait le dernier épisode de l'histoire de Noé. Dans cette histoire, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, puis une bonne nouvelle. Et on va voir qu'on va pouvoir se réjouir que Dieu peut amener la victoire dans les situations de souffrance que le péché amène dans nos vies et dans ta vie aussi. Regardons ces trois nouvelles, la bonne, la mauvaise, puis l'autre bonne. D'abord, la bonne, la première bonne, c'est que dans ce texte, malgré que ça finit très mal, mais la grâce de Dieu, la générosité de Dieu, avant que ça tourne mal, la générosité de Dieu, elle est partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand tu lis un texte comme celui-là, est-ce que tu es capable de t'arrêter aux bonnes choses que Dieu donne? Et dans ta vie, es-tu capable, à même tous les problèmes que tu vis, es-tu capable de t'arrêter et de compter les bienfaits de Dieu? Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Et je crois qu'avoir cette sensibilité-là, et je crois que d'être capable de dire merci, c'est un antidote au péché. Si tu es occupé à remercier Dieu pour les bonnes choses qu'il te donne, tu vas être moins porté à réagir mal aux mauvaises choses qui t'arrivent, parce qu'il y en a aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce texte au niveau de la grâce générale de Dieu? Vous vous souvenez, on a dit qu'il y a une grâce générale de Dieu. Les choses qu'il donne à tous les humains, les croyants et les incroyants. Hein? On voit que la vie recommence après le déluge. Et il y a des bonnes choses dans la vie de Noé. Peut-être que je peux remonter. J'ose pas trop parce que j'ai vraiment de la misère ce matin. Non, je crois qu'il vaut mieux pas. Peut-être avec votre Bible devant vous. Ah, voilà, on y est. Voilà, quelles sont des choses bonnes que nous voyons, que Dieu donne? Terre cultivable. Oui, c'est merveilleux. On peut cultiver la terre. Et c'est vrai que c'est rendu plus difficile après que la terre a été maudite par Dieu. C'est plus difficile, mais malgré tout, il y a des bénédictions. Ça pousse. Et qu'est-ce qui pousse? de la vigne? On peut se poser la question, c'est-tu bon ou mauvais, la vigne? La vigne avec modération, c'est bon. Est-ce qu'il y en a qui disent que c'est mauvais? Il y en a qui sont incertains. Oui, voilà. Oui. Oui. La joie de sortir de l'arche, de vivre à nouveau sur la terre ferme. Oui. Oui. Le mariage, la famille, la sexualité reprend et on se multiplie, les familles, les peuples qui se dispersent sur la terre. C'est bon, ça! C'est une bonne chose. Je vais revenir là où j'étais. Avez-vous d'autres points? Je pense qu'on peut remarquer aussi, malgré qu'il y a de terribles choses qui se passent, il y a deux des fils de Noé, on voit une réaction qui est vraiment bonne. Hein? Ils protègent l'honneur de leur père. Ils apprennent qu'il est nu dans une tente où les gens rentrent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont le couvrir dans la modestie, sans le regarder. C'est une très belle chose. Ce respect peut-être naturel et instinctif de l'être humain de protéger l'honneur de ses parents, de protéger l'honneur des autres, mais qui fait que... Parce qu'on le souvent, on ne le fait pas, Dieu va être obligé de nous donner des commandements. Il va nous dire, « Honore ton père et ta mère. » On va le voir un peu plus tard. Mais ici, on les voit, même avant que Dieu donne cette loi, naturellement, ils honorent leur père et protègent son honneur. Mais par rapport au vin, je voulais quand même revenir là-dessus parce que nous habitons dans une culture où il y a beaucoup de consommation d'alcool. Et il est vrai que ça cause beaucoup de problèmes, que l'alcool fort, peut causer aussi beaucoup de destruction. On pense en premier aux accidents de la route causés par l'abus d'alcool, mais il y a plein d'autres choses aussi. Et j'ai fait quand même une petite vérification dans l'Ancien Testament. Quand on parle du vin, il y a vraiment beaucoup d'avertissements de ne pas en abuser. Et que le vin qui nous fait sentir bien à cause de l'alcool ne devienne pas une drogue, ne devienne pas une dépendance, ne devienne pas en quelque sorte notre Dieu. Malgré tout, Dieu a donné la vigne et le vin comme une grâce aux humains pour pouvoir en user avec sagesse, avec modération. Si ça se trouve que toi, tu ne te sens pas confiant de pouvoir gérer l'alcool, c'est mieux que tu t'abstiennes. Si tu manges un repas avec quelqu'un qui est dans cette position, pour qui l'alcool est une occasion de chute, c'est mieux que tu t'abstiennes toi aussi, même si tu en bois dans d'autres circonstances. Cela étant dit, l'alcool est un don de Dieu. Regardez ce que dit le psaume 104. J'ai quand même trouvé un verset qui dit haut et fort que, ici, on va lire le psaume, « Du haut de sa demeure, Dieu arrose les montagnes. » La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Ton, c'est Dieu. Hein? Dieu fait pousser l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Hein? Prenez note de cette mention. Et le vin qui fait plus que l'huile resplendir son visage, et le pain qui fortifie le cœur de l'homme. Alors, Dieu est un peu osé ici. Il nous dit qu'il nous a donné le vin et ce sentiment de réjouissance, en groupe, en famille, quand on boit un peu de vin, pas trop, mais un peu de bon vin, et c'est une bonne chose. C'est un cadeau que Dieu donne. Avec, maintenant, gardez en tête quand même toutes les mises en garde que le Seigneur nous donne aussi, parce qu'on voit que l'humain faillible, souvent, n'est pas capable de gérer. Moi, je vais quand même vous dire, chez les Debanais, nous buvons du vin à l'occasion. J'espère que je vais garder ma job, que vous n'allez pas me congédier. Et mes filles qui ont grandi dans une, ils sont allées à l'école publique et qui ont eu des amis qui buvaient vraiment pour se saouler. C'est quelque chose, malheureusement, d'assez fréquent dans les groupes de jeunes amis ici au Canada, que les jeunes, ça va être un de leurs amusements de dire, on fait une fête, on prend des bouteilles de X, Y et Z et on boit pour voir c'est comment se saouler. Et c'est terrible, c'est terrible. Alors, on en a parlé avec nos enfants, avec nos filles, et je vais vous dire que, rendu à un certain âge, j'ai essayé de leur enseigner comment boire avec modération. Donc, quand on était tous à table, je leur mets un petit peu de vin dans leur verre et leur dis, bien, voici comment tu bois. Puis quand tu vas être avec tes amis, soit tu refuses, soit quand tu vas boire comme ceci. Et je leur ai montré comment boire lentement et boire peu. J'espère que je vais garder ma job, mais je vous dis ça pourquoi. Je vous dis ça pourquoi, parce que vos enfants, vous allez voir quand ils vont être à l'école secondaire, et que l'alcool est un sujet tabou dans la maison, il faut trouver un moyen pour pouvoir en parler. Parce que quand ils vont être avec leurs amis, ils vont boire en cachette et ils ne vont pas être équipés. Alors, je lance la réflexion. Écrivez-moi un courriel pour, si vous voulez me dire, ta solution n'est pas bonne, pasteur, puis on fera une soirée pour en discuter. Mais dans notre cas, ça a bien marché. Nos filles ont pu gérer cette période difficile de l'adolescence, tout en pouvant aller à l'occasion dans ces fêtes-là, en ne participant pas aux beuveries. Du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà. Vous leur demanderez en privé si c'est vrai. Tout un affaire, mais c'est un peu comme le sexe aussi. Le sexe, c'est quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous a donné, mais on est donc fragilisé par rapport au sexe. Vous êtes d'accord? Le péché sexuel, il est tout proche de chacun de nous. Quelle puissance que le sexe! Quelle force qu'a ce don de Dieu! Il faut traiter avec respect. Il faut tenir compte des mises en garde. Il faut obéir aux commandements de Dieu. Et l'alcool est pareil. Tout ça pour dire, soyons reconnaissants à Dieu pour tous les bienfaits de sa grâce universelle dont nous participons à chaque jour. La reconnaissance est un antidote contre le péché. Amen. Maintenant, la mauvaise nouvelle, c'est que la rupture se poursuit. Moi, je ne veux pas juger Noé, je ne veux pas juger Cham ici, mais j'avoue que je suis vraiment attristé devant l'effet du péché dans leur vie. La puissance du péché, elle est sournoise, elle est sans cesse à surveiller dans nos vies, dans la vie des humains, parce qu'on est dans le même bateau. On a la même nature que Noé, la même nature que Cham. Je dis qu'il faut surveiller le péché, c'est vrai, puis en plus, par nos propres efforts, on n'est pas capable de résister à la puissance du péché qui règne sur nous. Là, je parle sans la puissance du Saint-Esprit. Heureusement qu'on l'a. On va en parler plus tard. Mais cette vulnérabilité de Noé, c'est aussi la mienne. Et lorsque je regarde dans mon passé, moi, je suis pasteur en plus, je regarde mon passé et je dis, il y a des erreurs, il y a des méchancetés que j'ai commises dans ma vie, quand j'étais jeune, quand j'étais pas si jeune, des paroles que j'ai dites. Et je me dis, ça ressemble à des choses que Cham, que Noé ont fait ici. Et je les ai confessées, Dieu m'a pardonné, mais les conséquences qu'il y a eu, si ça n'a pas été aussi grave que dans le cas de Noé et Cham, c'est uniquement par la protection de Dieu, c'est par la grâce de Dieu sur moi. Vous me suivez? Donc, je ne suis pas là pour juger, mais pour reconnaître notre péché et la puissance que le péché a de nous faire commettre des choses vraiment destructrices. Et ici, dans ce passage, nous le voyons. Une autre chose que je voudrais dire, je répète quelque chose que j'ai dit il y a quelques semaines, dans le déluge, c'est comme une nouvelle création qui anticipe la vraie nouvelle création. La vraie nouvelle création, c'est quand? C'est à travers qui? À travers Jésus. Tu peux le dire plus fort. À travers Jésus-Christ, il y a une nouvelle création. Dans le déluge, il y a comme un signe de la nouvelle création, une ombre de la nouvelle création. Tout est transformé sauf le cœur humain. Hein? Les choses reprennent, mais c'est le même cœur qu'on voit faillible chez Noé et ses descendants. En Jésus, si tu as reçu Jésus dans ta vie, rien ne change autour de toi. Tu gardes le même mari, tu gardes les mêmes parents, tu gardes le même pays et tout. Il y a une seule chose qui change, c'est ton cœur. Jésus te donne un nouveau cœur. Amen? Et c'est pour ça que l'Oasis, si vous regardez votre bulletin, notre vision, on parle de transformation. Ici à l'Oasis, on veut voir des cœurs transformés, des humains transformés qui vont à leur tour exercer une influence transformatrice sur leur milieu, sur un monde qui n'a pas encore changé. Amen? Donc, l'Oasis, on est rendu dans quelque chose de vraiment important, la transformation du monde par le témoignage de cœurs transformés. Mais ici, on n'est pas rendu là encore. Noé, il vit dans un monde transformé, mais avec un cœur qui n'a pas changé encore. Malgré cela, c'est un homme qui a marché avec Dieu, mais il fait malgré tout des erreurs terribles. On voit l'abus de l'alcool. Il a trop bu. On se dit, c'est pas grave, je vais boire un coup de trop puis je vais aller me coucher. Apparemment, des choses terribles peuvent arriver quand tu es couché. Et c'est ce qui est arrivé à Noé. Il ne faut pas abuser de l'alcool. Et déjà, on le voit, nouvelle invention des humains, se saouler. On note aussi que Noé manque de pudeur, sans s'en rendre compte. Il se déshabille dans un lieu qui n'était pas si privé que ça. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de tentes dans le campement et il fallait que les gens entrent et sortent. Il a manqué de pudeur. Et c'est un manque de respect envers soi-même et envers les autres. Ça a brisé des relations. Et puis, quelle est la faute de Cham ici? Qu'est-ce que Cham a fait qui nous frappe? Qu'est-ce qui vous frappe dans ce que fait Cham, le fils? Il s'est moqué de son père. Il s'est moqué de son père. Avant de se moquer de son père, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Avant de manquer de respect. Oui, c'est ça. Il a manqué de protéger son père. Donc, pensez-y une minute de quand tu vois quelqu'un dans une situation vulnérable. Et est-ce que ça ne peut pas arriver dans certaines situations où tu te sens menacé par cette personne, au lieu de dire « je vais protéger son honneur », de dire « oh, je vais raconter ça à un tel ». Vous allez me dire « oh, moi, ça ne m'arrive jamais ». Mais on est tous pareils, ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Protéger l'honneur des autres, surtout de ton père, surtout de ta mère, de tes parents. Voilà qui a été manqué par Cham. Peut-être qu'avant, est-ce qu'il y a eu du conflit entre Noé et Cham qui fait qu'il s'est dit « Ah, moi je vais me venger contre mon père. » Qu'est-ce qu'il est allé faire? Vous connaissez la suite. Donc, avec ça, la médisance, au lieu de protéger l'honneur de ton prochain, de parler contre lui pour peut-être se monter dans la communauté et pour rabaisser l'autre. Maintenant, la réaction de Noé, qu'est-ce que vous observez dans la réaction de Noé une fois qu'il a cuvé son vin? Ça, c'est un autre problème avec l'alcool. Je ne sais pas si vous le savez, mais si vous vous saoulez, bien, le lendemain, là, vous êtes dans la souffrance, vous perdez une journée. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Mais une fois que Noé avait passé à travers sa gueule de bois et tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit. Là encore, une invention. J'ai vérifié, le verbe maudire, c'est seulement Dieu, avant, qui va maudire. Il a maudit le serpent, il a maudit la terre, et je ne me souviens pas. La malédiction de Dieu, il y a toujours, en tout cas pour les humains, il y a toujours une grâce. Parce que je crois, si je me souviens bien, que Caïn a été maudit, mais avec une grâce, avec une protection. Ici, pour la première fois, un humain va maudire un humain qui est sous son autorité. Et ça va avoir des conséquences terribles. Nous n'avons pas le droit de maudire qui que ce soit. Il y a un seul juge, c'est Dieu. On laisse la bénédiction finale, la malédiction finale à Dieu, puis on fait tout ce qu'on peut pour amener notre prochain dans la bénédiction de Dieu. Amen. On fait tout ce qu'on peut. Ce n'est pas notre rôle de maudire. Est-ce que Noé peut-être a agi trop vite? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Noé avant de maudire? Oui, Geneviève. Colère! Colère, oui, absolument, très important. Voilà un texte. C'est tellement un problème. Bien, premièrement, oui, honore ton père et ta mère. Ça a été tellement un problème, ce qui devrait être naturel, que Dieu est obligé de le mettre dans les 10 commandements principaux pour nous rappeler « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Très important. Mais dans un deuxième temps, Paul nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, il y a comme deux choses dans ce texte qui pourraient s'appliquer à Noé quand la colère est là, parce que tu t'es senti offensé. Il y a deux choses à éviter. Deux choses. Premièrement, le péché. Noé, il est tombé dans le panneau parce qu'il a réagi trop vite, il a réagi selon la colère. La colère doit t'amener à réagir dans l'amour, peut-être avec des paroles dures de vérité, mais dans l'amour. La colère ne doit pas t'amener à agir dans la colère. Mais il ne faut pas attendre trop longtemps non plus. Il faut essayer de régler dans un temps raisonnable. C'est pour ça qu'il continue et dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Sinon, elle va te ronger et ta vengeance va être encore pire si tu ne règles pas. Il y en a qui disent, avec un peu de fierté, comme s'ils étaient sages, ils vont dire, la vengeance est un plat qui se mange froid. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Et il y en a qui se disent, hey, moi, je suis intelligent parce que je sais que ma vengeance est un plat que je vais manger froid. Autrement dit, je vais attendre que la personne pense que je l'ai pardonné, puis je vais vraiment sévir. Et prenons ça dans le sens divin. Ne laissez pas le plat refroidir. Laissez la colère vous amener dans la vision de Dieu. Trouvez le moyen d'aller vers l'autre dans l'amour, dans la vérité et l'amour, au bon moment. Des fois, il faut attendre un peu. Mais le Seigneur va vous aider à savoir combien de temps. Moi, je voudrais aussi parler d'une autre invention des hommes. Terrible invention, c'est l'esclavage. L'esclavage dont il n'est pas question jusqu'à ce que Noé l'institue, en quelque sorte, dans sa colère. J'ai oublié de dire... Nous avons oublié de dire la colère de Noé. Non seulement est-ce qu'elle est trop rapide, mais elle est démesurée. Il se venge sur le fils de celui qui lui a fait du mal. C'est un peu comme... Quand on est fâché, des fois, on pense tordu. C'est un peu comme... Je vais prendre l'exemple de Philippe ici, qui est... Tu m'as offensé dans ma paternité, moi je vais maudire le fils de ta paternité. C'est complètement tordu. Oui, Pierre.
En fait, le pasteur Marcel, je comprends pas pourquoi Noé n'a pas demandé pardon à Dieu par rapport à son âge. Parce que s'il avait demandé pardon à Dieu, il n'aurait pas allé jusqu'à maudire l'autre.
Pourquoi il ne l'a pas fait? Et il a mal agi, il a vraiment mal agi, et on ne sait même pas s'il s'est repenti avant sa mort. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va mourir, mais que le mal est fait. Alors, c'est une très bonne question, et si ce que tu dis, Noé l'avait fait, l'histoire du Moyen-Orient aurait été autrement. Et l'histoire de l'Afrique aussi aurait été autrement. Je vais vous expliquer pourquoi. Noé, sous l'influence du péché, invente l'esclavage. Et sa malédiction, elle est sur Canaan. Alors, quand on regarde les fils de Canaan, on voit qu'ils se sont installés en Canaan, c'est-à-dire ce sont les gens qui habitent la terre promise. Et... Saviez-vous que Rahab, qui est une cananéenne, est une descendante de Canaan, et en plus une prostituée, mais parce qu'elle a eu la foi, elle a été sauvée. Rahab, elle est même devenue une descendante de Jésus-Christ. Elle a été ajoutée au peuple de Dieu. Donc, même les Cananéens, maudits par leurs ancêtres, pouvaient être sauvés. Là où il y a une parole qui tue, Dieu est là, qui peut sauver celui qui se tourne vers lui. Amen.
Amen!
Mais écoutez bien comment les hommes sont tordus. Il y a des peuples européens et arabes qui ont tordu la Bible et qui ont dit, ben les descendants de Canaan, c'est les Africains de race noire, qui n'est pas du tout biblique. Les descendants des Africains, ou l'ancêtre des Africains noirs, c'est plutôt Cush qui est un autre descendant de Cham. Mais les Cushites sont presque toujours dans la Bible traités avec honneur, Ce sont des grands guerriers, des leaders, des gens physiquement forts et que, dont la Bible parle toujours avec honneur. Mais les esclavagistes du Moyen Âge et autres, et jusqu'à très récemment, ils ont justifié leur commerce mortel en disant, mais de toute façon, les Africains, c'est les descendants de Canaan, qui est un mensonge. Ce n'est même pas vrai bibliquement. Et en plus, ce n'est pas Dieu qui a donné l'esclavage. C'est une invention humaine. Quand on regarde les relations entre les peuples dans la Bible, ce que Dieu veut, c'est qu'on se voit comme tous descendants d'un même père qui est Adam. Et quand il nous réunit dans l'Église, quand on voit la vision du peuple final dans Apocalypse, et Jean a dit, j'ai vu des gens de toutes les langues, de toutes les nations, de toutes les races, amen, qui adorent l'unique Dieu. Donc, on est tous égaux, et c'est les humains qui ont inventé la hiérarchie pour se faire du mal les uns aux autres. Donc, nous habitons dans une nouvelle ère de l'histoire où on reconnaît ce mensonge et nous devons, ici à l'Oasis, vivre cette anticipation du royaume où nous sommes tous égaux parce que Dieu nous a créés égaux. J'en parle parce que c'est pas si loin de nous, tout ça. C'est pas si loin de nous. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être me faire perdre ma job aussi. Non, je ne crois pas. Mais... Mon père, il a une descendance libanaise et beaucoup de Libanais vivaient en Égypte. Il m'a dit, j'ai découvert quand j'étais enfant que mon grand-père a acheté une esclave africaine. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Ça veut dire que c'est pas loin, là. Ça veut dire que c'est mon arrière-grand-père, qui était un chrétien, il se disait chrétien, pour lui, c'était normal d'acheter, et je crois qu'elle était soudanaise, elle s'appelait Ilana. Je sais ça parce que mon père l'a rencontrée dans sa vieillesse, cette dame. Paraît-il qu'il l'a bien traitée? Comment est-ce qu'on peut savoir? Moi, je n'ai pas connu mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-père. Paraît-il que cette dame, Ilana, qui venait du Soudan, est née en 1857 et qu'elle est décédée quand mon père était un enfant, donc dans les années 30. Ça fait pas longtemps. C'est proche de nous. C'est proche de nous. Et nous, si c'est vrai que nous portons les péchés de nos ancêtres, je suis vraiment dans le trouble. Je suis vraiment dans le trouble. Mais le pardon en Jésus-Christ, je crois, est là pour moi. Oui. Mais on a tout un passé derrière nous. Voyez-vous qu'est-ce qu'on amène ici à l'Oasis? Des choses terribles et en même temps, Jésus nous purifie. Jésus nous libère de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais il faut qu'on vive ensemble. Il faut qu'on vive ensemble. Et il faut qu'on reconnaisse les mensonges du passé, parfois qui sont dénoncés dans la Bible, parfois qui sont causés par des fausses interprétations de la Bible. Bon, tout ça, ça devient un peu lourd, mais la bonne nouvelle, en arrivant à la bonne nouvelle de la fin, il y a une libération qui vient. Quand on voit la Bible dans son ensemble, l'histoire de Noé, ça anticipe l'Évangile. Toutes les défaites humaines qui apparaissent dans la vie de Noé vont trouver une résolution dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc, si tu trouves quelque chose dans cette histoire où tu te reconnais toi-même, quelque chose qui s'est passé dans ta famille, dont tu es coupable ou dont tu es victime, il y a une solution en Jésus-Christ. Si tu as un problème d'alcool, tu peux être libéré. Jésus te donne une nouvelle nature et en apprenant à vivre avec le nouveau toi, tu peux renoncer à cet ancien Dieu, à cette ancienne drogue qui est l'alcool ou toute autre dépendance. Tu peux être libéré. Viens nous voir, il y a des solutions. Si tu as été victime d'une violence ou d'une parole qui tue dans ton contexte familial, tu peux être guéri. Parce que cette parole, ce n'est pas ta vraie histoire. Ta vraie histoire, c'est la parole de vie que Jésus te donne, que Dieu te donne en Jésus-Christ. Tu es un enfant bien-aimé de Dieu et tu vas vivre éternellement et tu vas réussir en Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Si tu es coupable d'avoir commis une violence ou prononcé une parole qui tue, même envers ton propre enfant, tu peux être pardonné. Tu peux commencer à réparer le tort causé. Mais Jésus doit t'aider. Tu dois venir à lui. Il a de la correction à faire dans ta vie. Il va le faire dans l'amour. Il est le médecin pour toi. Amen. Si tu as été victime du racisme, Jésus veut restaurer ta dignité et te donner le courage de te tenir debout. Tu peux jouer un rôle à l'Oasis en tant qu'égal avec des égaux. Il y a peut-être ici quelqu'un qui sent, peut-être tu ne t'en rends pas compte, mais tu as un sentiment de fatalisme. C'est-à-dire, tu te dis, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille, il y a une parole qui m'a été dite, ou il y a quelque chose que j'ai fait, je suis condamné. Je ne vais jamais sortir de ma malédiction. Je ne vais jamais mener à rien ma vie. C'est ce que mon père m'a dit. C'est faux. Jésus va t'aider à réaliser que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Jésus va te faire tenir debout. Jésus va t'aider à prendre responsabilité pour ta propre vie. Vivre une vie de dignité et d'enfant de Dieu. Et mettre la malédiction loin de toi. Pensez à Rahab. Rahab qui est devenue l'arrière-arrière-arrière-grand-maman de Jésus-Christ. Toi aussi, prends ta place dans le peuple de Dieu. Alors, avec tout ça, je crois que nous avons besoin de prier, de regarder à Christ. Nous allons prendre le repas du Seigneur dans quelques instants, mais on a besoin de temps. Recueille-toi. Peut-être tu veux te mettre à genoux. Peut-être tu as besoin de reconnaître devant Dieu quelque chose dont j'ai parlé. Peut-être que tu dois aller voir quelqu'un dans ta famille qui est ici ce matin et il y a un mal qui doit être confessé. Peut-être que tu as juste besoin d'aller saluer un frère et lui dire que je t'aime dans l'amour du Seigneur, ou une sœur. Prenons un moment de recueillement, mais pour ceux qui ont besoin d'aller parler à quelqu'un, allez-y maintenant. Et on va prendre un moment pour vraiment sonder ce que l'Esprit est en train de nous dire. Car nous allons prendre le repas où Jésus va nous donner du vin, le fruit de la vigne. Mais ce vin-là, ce n'est pas pour nous saouler. C'est un vin qui nous donne la vie. C'est le vin qui est censé nous unir. Préparons nos cœurs. Prenons ce moment de silence ou de communion l'un avec l'autre.